En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille du sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Quelle belle déclaration ce matin, la lumière de Dieu qui est destinée donc à partager la connaissance de Christ. Eh bien, nous la portons. Nous la portons, bien sûr, en nous. Nous la communiquons, nous la partageons comme on peut, bien sûr, mais nous sommes ces vases de terre qui portons ce grand trésor. Un jour, sur une petite carte postale, je ne sais pas si vous l'avez déjà vue, celle-ci, c'est pas un verset biblique, hein. C'est marqué « Heureux les fêlés parce qu'ils laissent passer la lumière ». Hein, heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Bon, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, Paul nous dit que nous sommes des vases de terre, mais nous portons ce grand trésor. Nous sommes la lumière du monde. On l'a chanté ce matin et on veut le vivre. Et il y a dans cette déclaration, bien, il y a le côté divin, il y a le côté céleste, il y a le côté glorieux. Et puis, il y a le côté humain, il y a le côté terrestre, il y a le côté fragile, il y a le côté fêlé, oui, il y a le côté cruche de temps en temps. Également, c'est le vase de terre que je suis, hein, je parle pas de vous. Vous êtes les vases, bien entendu. Et c'est ce que nous allons redécouvrir ce matin parce que le vase, c'est un ustensile, bien sûr, universel, hein, bien connu de chacun d'entre nous. Il est indispensable. Les premières références, c'est la sortie d'Égypte. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce moment important où il est dit que les Égyptiens, c'était une promesse que Dieu avait faite au peuple hébreu. Il leur a dit ceci, dès la sortie d'Égypte, eh bien, des vases d'argent, des vases d'or, les Égyptiens vous en donneront. C'est extraordinaire quand même, hein. Et les Hébreux sont partis avec des vases remplis d'or et d'argent. Alors il existe des vases, vous le savez, de toutes sortes, de toute contenance, pour tous les usages. Il y en a en or, en argent, il y en a en bois, il y en a en pierre, il y en a pour les aliments, pour le liquide, etc., etc., pour l'huile, pour le vin, pour les parfums. Et le vase est bien sûr un instrument universel. Mais pour Paul, dans ce contexte, eh bien, il nous associe à des vases de terre. Et on va considérer ce matin trois étapes essentiel pour fabriquer un vase de terre. Nous sommes dans les mains du potier. On va lire ce texte dans Jérémie 18, hein, vous le connaissez. On va parler du pétrissage de l'argile, ça commence comme ça. On parlera ensuite du tournage, du façonnage de cette argile sur le tour du potier, et puis on terminera par le séchage, hein, ou la cuisson, peu importe, une dernière phase aussi pour bien que ce vase de terre que nous sommes puisse porter ce grand trésor. Alors, Jérémie 18, versets 1 à 6, on va le relire ensemble. Hein, vous connaissez ce moment-là aussi dans la vie du prophète, où il va être conduit dans la maison du potier. Et voilà ce qu'il est dit. « Voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi et descends à la maison du potier, là je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. » Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier, communauté d'Israël. Amen. Vous êtes dans ma main comme de l'argile dans la main du potier. La première phase pour conduire donc ce vase jusqu'à la finition, eh bien c'est ce qu'on appelle le pétrissage, le malaxage. Je sais pas s'il y en a qui font de la poterie. Il y en a qui font de la poterie ce matin ou qui ont essayé. Vous avez essayé comme moi quand vous étiez enfant et puis vous avez dit c'est facile, hein, et puis au bout de 3 minutes, eh bien la boule de pâte c'est devenu une bille, etc. Mais aujourd'hui, si on veut faire un peu de poterie, on va au magasin, crayon bricolage, et puis on achète de la pâte, de l'argile, tout fait, tout prêt, il n'y a plus qu'à mettre, il n'y a plus qu'à faire. Mais à cette époque, si le potier veut s'installer, si le potier veut en faire son métier, eh bien, il y a au moins deux éléments fondamentaux qu'il faut qu'il ait. Il faut une terre appropriée, et puis il faut aussi une source d'eau. Il faut de l'argile, et puis il faut de l'eau. Sans ces deux conditions, le potier ne peut pas s'installer. Le potier ne peut pas s'installer pour faire sa poterie et bâtir ainsi la maison du potier. Le potier, c'est donc un homme de la terre, un homme de terrain, qui va travailler cette terre avec ses mains. Et pour cela, ben, il va falloir chercher la terre. Alors avec quelques instruments, bien sûr, faire des trous, voilà, creuser peut-être. Et puis, eh bien, il va falloir tamiser cette terre parce qu'elle n'est pas tout de suite propre à mettre sur le tour. Il faut enlever les scories, peut-être les morceaux de bois, les pierres, pour arriver quand même à quelque chose de correct pour pouvoir la modeler, pour pouvoir ensuite en faire une pâte assez homogène. On peut déjà tirer quelques enseignements ce matin de cette première pensée. Dieu, le divin potier, on va dire ça comme ça, a installé sa maison sur la terre des hommes. Alors c'est dans nos cœurs, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et pour nous ce matin, il y a une belle réalité. Dieu, le divin architecte de toute cette terre, eh bien, a établi sa maison là, la maison du potier. La maison du potier dans nos vies. D'ailleurs, Jésus dira souvent de lui-même, « Je suis le Fils de l'homme. » Je suis le Fils de l'homme, également montrant cette réalité, on va dire, bien terrestre, bien humaine. Et ça nous rappelle ce matin que notre Dieu connaît parfaitement la nature de notre terrain, la nature de notre cœur. Anne en parlait justement ce matin, nos semaines qui se ressemblent les uns par rapport aux autres. Mais Dieu connaît, il sait exactement bien dans quelle disposition de cœur nous sommes venu ce matin, il connaît exactement le terrain et il sait bien sûr ce dont nous avons besoin d'être séparés pour que la terre que nous sommes devienne malléable entre ses mains et que le vase que nous sommes, eh bien, réussisse entre ses mains. Il y a dans le psaume 103 cette réalité qui nous est partagée, versets 13 à 14. Voilà ce qu'il est dit. Psaume 103, verset 13. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes faits. Il se souvient que nous sommes poussière, que nous sommes argile, que nous sommes glaise, que nous sommes rien du tout. Et pourtant, cette connaissance de notre terrain renforce sa compassion. Dieu pourrait nous dire, et se dire, oh ben, j'ai assez patienté avec lui, avec elle, mais cette connaissance de notre terrain ne le pousse pas à s'éloigner de nous, mais au contraire à s'approcher, encore et toujours un peu plus. Quelle belle réalité ce matin pour nous. Il nous connaît. Le divin potier nous connaît. Et puis, une fois que la terre, que l'argile est séparée de tous ses scories, eh bien, il va falloir la pétrir, alors qu'elle devienne homogène. J'ai regardé sur certains tutos, la masse de terre qu'on peut mettre sur un tour, parfois, ça peut aller jusqu'à 5 à 8 kilos. Vous vous rendez compte? 5 à 8 kilos, et s'il y a la maison du potier, il y a aussi les mains du potier. Et ces mains du potier, eh bien, elles sont indispensables, elles sont essentielles pour ce métier. Et pour cette phase, eh bien, les mains du potier doivent être solides, elles doivent être fermes. Elle doit être solide, elle doit être ferme pour que cette pâte devienne bien homogène, pour la pétrir. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé un petit peu. Moi, quand je fais un gâteau, il faut pétrir à la main. Je me rappelle, avec mon grand-père, les beignets, on mettait du beurre, etc. Bon, déjà, c'était assez dur. Mais là, imaginez, 5 à 8 kilos. Et il faut pétrir. Et pourtant, les mains de notre Dieu sont fermes. Et David va nous rappeler une curieuse expérience qu'il va vivre justement dans cette réalité, c'est dans le psaume 32. Il dit ceci, « Heureux celui dont la transgression est enlevée, dont le péché est pardonné, heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute, dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait, je gémissais toute la journée, nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi, ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été, je t'ai fait connaître mon péché, etc. etc. » Dans ce psaume, David décrit un moment assez particulier. Il expérimente la pression de la main de Dieu sur sa vie. En effet, on n'a pas les raisons, mais David ne veut pas, ne peut pas, en tout cas, confesser, là, ce qu'il est en train de dire, son péché. Et finalement, Dieu va le travailler au corps. Il va mettre la pression sur lui. Il va le pétrir, travailler son cœur pour qu'il arrive à confesser, pour qu'il arrive à être pardonné, pour qu'il arrive à être libéré. Et il peut, et il se peut, que ce matin, bien, il y ait aussi parfois dans nos vies le travail de Dieu, dans nos vies, sa main qui va s'appesantir lourdement sur nous pour nous aider, pour nous pousser, voire nous contraindre à confesser, à avouer, à ouvrir notre cœur, non pas pour qu'il nous détruise, mais pour qu'il nous construise, pour qu'il nous mette sur le tour, et pour que nous devions un vase de terre, certes, mais qui porte ce grand trésor de la bonne nouvelle, de l'évangile, de la joie, de la paix du Seigneur, qu'il nous conduise ce matin sur le chemin de la repentance. Ne résistons pas, parfois, à la main de Dieu qui pèse sur nous, qui nous pétrit, jusqu'à ce que nous puissions nous aussi reconnaître, confesser, et de dire, Seigneur, oui, bien, aide-moi, j'ai besoin de toi. La deuxième phase, une fois que cette masse de terre est bien séparée, évacuée de tous les scories, eh bien, c'est le façonnage ou le tournage. Hein, vous avez certainement déjà vu là, un tour. Alors maintenant, c'est électrique. On appuie sur un bouton, mais les piles, puis ça va tout seul. Enfin, c'est ce qu'on croit. Hein, mais à l'époque, c'était un tour avec le pied. Il fallait tourner, etc. Et c'est durant cette phase que l'argile, qui est encore informe, eh bien, va devenir un vase, va devenir un pot, va devenir une cruche, va devenir enfin quelque chose entre les mains du potier, ce qu'il va créer, ce qu'il va décider de faire. Et la première pensée pour nous, c'est que chacun est à sa place. Chacun est à sa place dans cette deuxième phase. Ésaïe 45, verset 9, nous rappelle également ce texte où l'argile pourrait s'exprimer et dire ceci: « Malheur à l'homme qui intente un procès à celui qui l'a façonné, lui qui n'est qu'un vase parmi d'autres vases de terre, l'argile dit-elle au potier, que fais-tu ? Ou ton travail est mal fait ?» Alors nous, on dit pas comme ça au Seigneur. Hein, on est beaucoup plus polis et on a l'habitude là aussi des belles phrases. Mais il faut reconnaître que parfois on dit « Seigneur, mais qu'est-ce que tu es en train de faire ? Ce n'est pas comme ça que je prévoyais les choses. Ce n'est pas comme ça que je prévoyais l'exaucement de ma prière. Ce n'est pas comme ça que je prévoyais que tu arranges cette relation avec quelqu'un d'autre. Que fais-tu ? Que fais-tu ? Rappelons-nous ce matin, nous sommes par nature l'argile. Et puis Dieu est le potier. Et chacun a sa place. C'est-à-dire que c'est Dieu qui façonne mon cœur. C'est Dieu qui va me modeler selon son plan, selon ce qu'il veut pour moi. Il va faire de moi, avec moi, ce qu'il a prévu. On parlait tout à l'heure des dons. Hein, il y a une prière qui remerciait le Seigneur pour les dons que nous pouvons avoir les uns les autres. C'est extraordinaire, mais parfois, on aimerait avoir les dons que les autres ont. Oh, j'aimerais bien jouer du piano comme Anne. Moi, si vous me donnez un piano, vous allez sortir rapidement. J'aimerais bien chanter comme un autre. Oh, j'aimerais bien prêcher. J'aimerais bien faire l'école du dimanche. Et puis, quelque part, c'est comme si on remettait en question le plan de Dieu. En tout cas, ce serait tellement mieux pour moi d'être comme celui-ci ou comme celle-là. Qui sommes-nous ce matin pour contester ? Bénissons au contraire le Seigneur pour les dons qu'il nous a donnés. Et puis, est-ce qu'on pourrait dire aussi, bénissons le Seigneur pour les dons qu'il ne nous a pas donnés. Et ça, c'est un peu plus con. Je vous laisse ça comme réflexion cette semaine. Hein. On va pas répondre ça tout de suite. Pourquoi ? Bien parce que ce qu'il m'a pas donné, il l'a donné à d'autres, à des frères et sœurs qui, en complément de mes dons, bien vont faire quelque chose qui va glorifier le nom du Seigneur. Hein. 2 Corinthiens 5, 17 nous rappelle quand même ceci. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle création. Et vous êtes une nouvelle création, je suis une nouvelle création, avec des dons particuliers, avec un caractère particulier, mais ce matin, apprenons, comme on l'a entendu tout à l'heure, de ne plus râler, de ne pas contester, et bénissons le Seigneur pour les dons qu'il m'a donnés. Et puis vous savez, Dieu est un Dieu de mouvement, il est dynamique, il peut rajouter d'autres dons. Les dons que Dieu me donne aujourd'hui ne sont pas statiques, ils ne sont pas figés, ils évoluent. Ils évoluent dans le temps, ils évoluent dans le plan de Dieu, mais acceptons et puis travaillons les dons qu'il nous donne, travaillons avec les dons qu'il nous donne, afin que nous puissions être également eh bien ce vase d'argile, certes, mais qui porte ce grand trésor. Et puis là, le deuxième élément, dans cette phase de façonnage, le potier va placer l'argile au centre, au milieu du tour. Il ne pourra rien faire, pas commencer à travailler tant que l'argile ne sera pas centrée. Hein, quand vous regardez des tutos, il y a quelques tours comme ça où le potier va bien centrer l'argile parce que si l'argile n'est pas centrée, il ne pourra pas travailler. C'est impossible à travailler si l'argile n'est pas au centre du tour. Alors, bien sûr que pour nous ce matin, Dieu ne pourra jamais rien faire si notre vie n'est pas centrée sur l'œuvre du Christ. Si les mains du divin potier ne pourront pas nous façonner à l'image de Jésus, s'il n'est pas devenu le centre de nos vies, c'est impossible techniquement. Et spirituellement, c'est la même image. Il nous faut là aussi passer par la nouvelle naissance. Il nous faut passer par Christ qui devient désormais le centre de nos vies. Nous ne sommes plus le centre de gravité du monde. Vous connaissez l'expression « être le nombril du monde ». Voilà, hein. Et parfois, dans notre ancienne vie, on a été le nombril du monde. Mais la conversion, c'est un déplacement, je oserais dire, de ce centre de gravité. Ce n'est plus nous qui sommes au centre, c'est Christ. Et il nous faut, ce matin, nous rappeler cette belle réalité, cette nouvelle naissance. Dieu nous place au centre du tour. Et ce tour, eh bien, représente bien sûr l'œuvre de Christ. Le centre du tour représente l'œuvre de Christ. Philippiens 2:5. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ, Christ au centre. Et alors là, je peux commencer à être façonné par Dieu. Jean 3:3, à moins de naître de nouveau, vous ne pouvez voir et entrer dans le royaume de Dieu. Et là encore, eh bien Christ est au centre et Dieu peut commencer à travailler en nous. Alors cette masse de terre informe que nous sommes, eh bien Dieu va la travailler, va la modeler. Il va la placer bien sûr au centre du tour et le travail de croissance eh bien va se faire. Hein, Philippiens 4:7 par exemple, gardez vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, hein, centrez toujours sur Jésus. Et puis toujours dans les mains du potier, c'est une autre phase différente du pétrissage, mais là la main du potier est toujours bien sûr aussi ferme, mais elle va exercer des mouvements qui sont invisibles à l'œil nu. Quand vous regardez un potier d'extérieur, vous avez l'impression que le truc, il monte tout seul. Ça va tout seul. Voilà, il vous fait un vase en 10 minutes et puis, hop, on en fait un autre. Mais on ne voit pas. Il y a un travail là aussi des mains qui sont invisibles à l'œil nu, hein, et qui vont permettre au vase de pouvoir bien se former. La poterie ne se fait pas toute seule. La poterie ne se fait pas toute seule. Bien, le potier va accompagner, va diriger, va orienter bien ce qu'il veut faire. Et c'est bien les mains du potier qui va former, qui va positionner, bien sûr, en fonction de son plan, bien ce vase, créer l'objet qui est désiré. Les mains du potier, là, elles sont précises, elles sont créatrices. Elles sont pleines d'imagination, les dimensions, l'objet désiré, tout cela, eh bien, ce sont dans les mains du potier. Et à ce moment-là, eh bien, même si il y a un gabarit, chaque pièce devient unique. Chaque pièce de poterie est unique. C'est pas de la grande série. Dans 2 Corinthiens 4:18, il dit ceci: nous regardons ce matin non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Parce que les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Hein, si on pouvait donner la parole à notre vase qui est en train de se faire sur son tour, peut-être qu'il pourrait dire aux mains du potier: « Aïe là, tu me fais mal. C'est pas comme ça que je m'étais conçu. Là, c'est trop, c'est pas assez évasé. Là, c'est mal fait, etc. Et pourquoi ça dure aussi longtemps ?» Et pourtant, le travail de Dieu, ses mains hein, qui travaillent dans notre cœur, à l'intérieur, sont invisibles de l'extérieur. Mais elles produisent un poids éternel de gloire, nous rappelle l'Écriture. Et ce matin, soyons reconnaissants une fois encore au travail de Dieu invisible dans notre cœur, dans notre vie. Il va produire, il produira un poids éternel de gloire. Les choses visibles, on le sait bien, elles passent. Même nos vases, hein, d'ici-bas, peuvent casser. Et ça devient un drame incompréhensible quand c'est le vase de la grand-mère qui nous avait été donné, celui que personne n'aimait dans la maison, mais qui avait une valeur sentimentale, et il se brise, il se casse. Mais ce matin, il y a un travail, bien sûr, qui est invisible. Le façonnage de nos pensées. Façonner nos pensées à celles de Christ. Un travail invisible, un travail quotidien, mais qui aura là aussi pour une conséquence, un poids éternel de gloire. Le façonnage de notre caractère. Seigneur, donne-moi de la patience, mais fais vite. Vous connaissez cette prière, hein? Ah oui, fais vite. Hein. Et puis, le façonnage de nos attitudes, le façonnage de nos habitudes, tout ça, ça se fait dans l'invisible, dans le cœur. Ça se voit pas manifestement du jour au lendemain, mais c'est un travail de Dieu qui se fait. Et pendant tout ce temps de façonnage, je le rappelle, il y a un deuxième élément qui est indispensable, indissociable, eh bien, c'est l'eau. Régulièrement, pendant ce moment où le potier travaille sa poterie, bien, il va humidifier, il va arroser l'argile afin qu'il reste souple, afin qu'il reste malléable, afin qu'il reste travaillable, lui permettant ainsi d'affiner des bords, de les faire de plus en plus fins, de monter les parois, etc. Mais tout cela, il a besoin d'eau. Parce que s'il n'y a pas d'eau, bien, le vase ne va pas réussir, il va se briser, la terre ne sera pas à la bonne température, ne sera pas bien humidifiée. Pour nous, ce matin, bien, cette eau représente l'eau de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, qui permet de nous affiner. Et voilà pourquoi nous aimons à nous répéter, bien, que quotidiennement, régulièrement, nous avons besoin d'être nourris par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Alors que, qu'on lit, j'ai même appris, on a découvert ça avec les jeunes, qu'on peut maintenant écouter la parole de Dieu avec des oreillettes et avec un engin, là, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, moi j'étais le vieux pasteur, il faut lire la parole de Dieu. Non, on peut l'écouter maintenant, c'est extraordinaire quand même, hein. On peut faire les deux même, hein. Bon, voilà. Mais, je veux dire, peu importe que nous soyons nourris chaque jour de cette parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu qui va descendre dans l'eau de la parole. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, dit l'Écriture. Amen. Et ainsi, chaque jour, oui, c'est toujours un travail de longue haleine, eh bien, on va affiner notre perception du plan de Dieu, notre perception de sa volonté, notre destinée, notre identité. Tout cela, ça va se construire étape après étape, arrosé par l'eau de son esprit, arrosé par l'eau de sa parole. Et puis, la dernière étape, alors c'est le séchage ou la cuisson. En tout cas, que cette dernière phase soit naturelle ou par le soleil ou alors plus artificielle dans un four, l'argile a besoin de durcir, a besoin de se solidifier afin de remplir, bien sûr, sa mission. Et c'est l'épreuve du feu qui va l'y conduire. C'est une phase que le potier doit aussi maîtriser. On n'est pas dans nos fours actuels électriques, on met le thermostat, etc., la durée, on met la poterie, elle ressort, elle est impeccable. À l'époque, eh bien, le four, ce sont des briques, il faut mettre un foyer, le vent, ça souffle, etc., et il faut vraiment que le potier maîtrise, hein, cette cuisson pour que tous les vases qui sont en train de cuire, eh bien, puissent ressortir de la meilleure façon. Il faut maîtriser, bien sûr, ce moment pour réussir parfaitement. Et ce matin, eh bien, on va dire ça comme ça, il y a quelques feux que Dieu permet dans nos vies pour que nous puissions, eh bien, nous aussi, être endurcis, devenir résistants et puis porter ce trésor de la parole de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ. 1 Pierre 4, 12 et 14, par exemple, nous parle du feu de l'épreuve. Et je sais que ce matin, il y a des bien-aimés qui sont dans cette situation. Et c'est quelque chose que naturellement, bien, nous n'apprécions pas, que notre chair ne veut pas. 1 Pierre 4, 12, il dit ceci, « Mes bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise qui sévit parmi vous pour vous éprouver, comme si vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous prenez aux souffrances de Christ, afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu, repose sur vous. Et puis 1 Pierre 5:10, ça nous dit ceci également. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Le feu de la persécution. Alors bien sûr, ce n'est peut-être pas la même que dans d'autres pays, mais peut-être que ce matin vous êtes persécuté, maltraité dans votre famille, sur votre lieu de travail, dans votre quartier, parce que vous êtes un enfant de Dieu, parce que vous êtes un vase de terre qui portait ce trésor. Eh bien, la Bible nous dit, et c'est Paul qui, Pierre qui le rappelle, de malgré tout se réjouir. Seigneur, merci. Oui, il y a le feu de l'épreuve, mais je sais que avec l'épreuve, tu as permis aussi, tu as trouvé la solution, le bout de l'épreuve. Et puis, on se souvient de Daniel, hein, les trois amis de Daniel plutôt, les trois amis de Daniel, ils sont dans la fournaise, vous rappelez, hein. Et puis, qu'arrive-t-il? Alors, on les lit, bien sûr, on les jette dans cette fournaise, et là, le roi les voit en songe. Ils n'ont plus trois, mais ils sont quatre. L'ange de l'Éternel qui marche avec eux au milieu de la fournaise, hein, Jésus qui marche au milieu de la fournaise avec ses trois compagnons, et la Bible dit qu'ils vont ressortir de ce moment avec détachés, les liens sont partis, ils ne sentent même pas la fumée. Peut-être que certains vont faire un barbecue tout à l'heure, hein. Vous allez voir comment ça va faire tout à l'heure si vous changez pas vos habits du dimanche, hein. Vous allez sentir la saucisse de barbecue pendant des heures et des heures. Et voilà, ils ressortent. Jésus était avec eux. Ce matin, mon frère, ma sœur, eh bien, toi qui vis ce temps d'épreuve, le feu de l'épreuve, eh bien, Jésus est avec toi. Et c'est une phase aussi, là aussi, peut-être plus désagréable, mais pour arriver à ce que ce vase devienne un vase qui puisse glorifier le nom du Seigneur. 1 Corinthiens 3:12, il y a un autre feu. Alors, on n'en parle pas souvent, c'est le feu du jugement. C'est le feu du jugement de nos œuvres, pas le jugement dernier. Ce sont nos œuvres qui seront jugées, mais elles passeront aussi par le feu. Elles passeront aussi par le feu, bien sûr. Et ce matin, bien, nous voulons bénir le Seigneur. Oui, nous sommes séchés, nous sommes cuits, mais nous pouvons remplir l'œuvre de Dieu parce que nous sommes ainsi des vases de terre qui portons la lumière de Christ. Alors, pour conclure, un dernier texte, peut-être pas le relire entièrement, mais sans, dans Matthieu, bon, vous le relirez, Matthieu 27:10, c'est ce moment où Judas va trahir Jésus, et puis donc, il va recevoir 30 pièces d'argent. Vous connaissez la suite, il va rendre cette pièce d'argent, et les sacrificateurs sont bien embarrassés, qu'est-ce que nous allons faire avec ces 30 pièces d'argent? Alors, il est dit qu'ils vont acheter un champ. Et un champ particulier, c'est le champ du potier. C'est le champ du potier. 30 deniers à l'époque, alors plusieurs commentateurs, certains disent c'était le salaire mensuel, un denier par jour, 30 deniers. D'autres disent que c'était à la période de Pâques, eh bien, le prix d'un agneau. Les vendeurs de moutons n'étaient pas bêtes, hein, ils montaient les prix à cette période. Ils savaient très bien que le commerce était déjà, à cette époque, très florissant. En tout cas, quoi qu'il en soit ici, ces 30 deniers, c'est le prix du sang, c'est le prix de la trahison de Judas, mais c'est aussi le prix du plan de Dieu. Judas n'est pas étranger au plan de Dieu. Dieu avait tout, là aussi, prévu. Et Judas, avec sa trahison, malgré sa trahison, il entre dans le plan de Dieu. Alors, dernier principe, Dieu est au contrôle de chaque moment de notre vie. Que ce soit du début jusqu'à la fin, que ce soit les mains du potier, que ce soit la maison du potier, jusqu'au champ du potier, hein, c'est devenu aussi une sépulture pour les étrangers, eh bien Dieu est au contrôle de notre vie. Il y a ce beau psaume qui nous dit que Dieu nous garde, hein, il garde notre départ, il garde notre arrivée. Laissons-nous ce matin modeler par le Seigneur, faisons-lui confiance, là aussi, eh bien, ouvrons notre cœur. Et puis, ce champ du potier, il va changer de nom. On va l'appeler Akeldama, hein, littéralement le champ du sang. Nous rappelons aussi que ce matin, Christ, eh bien, a versé son sang dans l'argile, on va dire, de nos vies, pour que nous devenions non plus des vases de colère, que nous ne soyons pas des vases de colère destinés à la condamnation, mais que nous devenions, certes, des vases d'honneur, mais des vases qui portent ce grand trésor. Des vases d'honneur, j'oserais dire, quand même. Des vases d'argile. Alors, avant de conclure, une dernière chose. Il peut arriver, pour toutes sortes de raisons, qu'un vase se brise. On parlait tout à l'heure du vase de la grand-mère, qui est parti. Alors, vous allez essayer de le recoller avec de la colle super glue, etc. Mais c'est pas ça. Donc, une fois que le vase, il est brisé. Alors, c'est peut-être un choc. C'est peut-être un vieillissement prématuré, une exposition au soleil, aux intempéries, etc. C'est peut-être une chute. Et puis le vase, eh bien, se brise. Et la vie est ainsi faite. Peut-être que ce matin, certains se disent, mais ma vie ressemble à ce vase brisé. J'ai l'impression, ou je pense, ou je suis sûr que je ne reflète pas autant que je voudrais, ou je ne reflète plus. Ce trésor, cette paix, cette joie du salut, ce pardon, c'est peut-être une réalité dans votre vie. Ce matin, il n'y a plus ce trésor de joie, d'espérance, de foi, d'amour dans mon cœur, dans ma vie. Alors que va faire le potier d'un vase qui est brisé ? Vous voulez que je vous le dise ? Il va le briser encore plus. Il va le briser encore plus. Il va encore le briser jusqu'à le réduire en poussière, jusqu'à le réduire en poussière très fine. Et waouh, ce divin potier, il est quand même cruel ce potier. Jusqu'à le réduire en une fine poussière et l'incorporer à nouveau à une pâte nouvelle. Qu'il va à nouveau pétrir, qu'il va à nouveau façonner, qu'il va à nouveau cuire. Et vous savez, ce qui est extraordinaire dans ce processus, c'est que ce nouveau vase sera plus solide que l'ancien. Ce nouveau vase sera plus solide que l'ancien. Ne désespérez pas, vous peut-être ce matin, qui pensez que votre vie est brisée, qu'il n'y a plus ce trésor. Je ne sais pas, c'est une réalité. Dieu seul connaît la réalité. Mais même si c'était une réalité, eh bien, ayez toujours cette espérance. Le divin potier ne laisse jamais un vase brisé. Mais il va le réduire en poussière pour l'incorporer à nouveau et faire un nouveau vase. Amen. Quelle grâce ce matin. Nous voulons vraiment bénir le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Alors, avant peut-être de partager le temps de Sainte-Cène, je ne sais pas si Anne avait prévu un chant pour ce moment, mais dans ce moment de Sainte-Cène, eh bien, nous pourrons là aussi réaliser cette réalité. Christ, qui a été brisé pour nos péchés, eh bien, ce matin veut nous conduire tout à nouveau dans cette réalité que nous voulons confesser. Nous portons ce trésor dans un vase de terre. Amen. Et nous le portons ce matin. Amen. Que Dieu soit béni. Peut-être que nos frères et sœurs vont conduire ce moment de chant, et puis nous aurons encore un temps de Sainte-Cène ensemble, où nous pourrons eh bien, confesser cette belle réalité. Nous sommes entre les mains du potier.